Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 24 avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Les dirigeants africains réunis au Caire demandent une transition pacifique et démocratique au Soudan, ainsi que l'arrêt immédiat des combats en Libye.
Au Tchad, le collectif contre la vie chère a appelé les Tchadiens à manifester pacifiquement demain.
Le Malawi est devenu depuis hier le théâtre du premier test à grande échelle d'un vaccin contre le paludisme.
Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué les attaques suicides du dimanche de Pâques contre des églises et hôtels au Sri Lanka.
Kim Jong-un, le leader nord-coréen, est en Russie pour son sommet de demain à Vladivostok avec le président Vladimir Poutine.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Des chefs d'État africains réunis sous la houlette de l'Égypte ont appelé hier à une transition pacifique et démocratique d'ici 3 mois au Soudan. Le pouvoir militaire fait face à une contestation qui réclame un gouvernement civil. Le point avec Ekia Badou.
Les chefs d'État africains réunis au Caire appellent le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à assouplir sa position et à prolonger de 3 mois le délai accordé aux militaires soudanais. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait menacé le 15 avril de suspendre Khartoum si l'armée ne quittait pas le pouvoir d'ici 15 jours au profit d'une autorité politique civile. Le Conseil militaire de transition au Soudan a jusque-là résisté aux appels du mouvement de contestation à un transfert immédiat du pouvoir à une autorité civile. Ce conseil a toutefois déclaré lundi étudier une proposition des leaders de la contestation pour maintenir la pression. Des milliers de manifestants sont installés depuis plus de 2 semaines aux abords du quartier général de l'armée à Khartoum. L'armée exige le démantèlement des barrages installés sur les voies d'accès sans faire fléchir les protestataires qui ont reçu hier le renfort d'un train spécial rempli de personnes venues du centre du pays pour réclamer un pouvoir civil.
La responsable du département d'État américain chargée de l'Afrique de l'Est, Makhila James, en visite à Khartoum, a dit à l'AFP « Nous soutenons la demande légitime du peuple du Soudan qui réclame un gouvernement dirigé par des civils et nous sommes ici pour encourager les partis à œuvrer ensemble afin de faire avancer ce projet au plus tôt. »
Il a été question de la Libye aussi au Caire lors d'un autre sommet de l'Union africaine. Selon leur communiqué, les dirigeants africains ont demandé l'arrêt immédiat et inconditionnel des combats. Il s'agissait pour eux de trouver, je cite, « les moyens d'endiguer la crise et de relancer le processus politique ». Des combats violents opposent depuis le 4 avril en Libye les forces loyales au gouvernement d'Union nationale reconnues par la communauté internationale aux troupes de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, aux portes de Tripoli.
En Algérie, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a limogé le PDG du géant pétrolier et gazier public, la Sonatrach, Abdelmoumen Oulkadour. Selon la télévision d'État, aucune explication n'a été fournie sur les raisons de son remplacement par Rachid Hachichi à la tête d'un groupe aussi crucial pour l'économie algérienne. La Sonatrach a été secouée ces dernières années par une série de scandales financiers qui ont fait l'objet d'enquêtes en Algérie et aussi à l'étranger.
Au Tchad, le collectif contre la vie chère a appelé hier les Tchadiens à manifester pacifiquement demain pour protester contre la pénurie de gaz qui affecte le pays depuis plus de 2 mois. Le point avec Eric Manirakiza.
Nous appelons les Tchadiens, jeunes femmes, enfants touchés par cette situation, à sortir massivement avec leurs bonbonnes de gaz et marmites vides jeudi dans les rues, a déclaré le porte-parole du collectif Dink Manayar Nelly Versinis. Lundi, le gouvernement avait pris un arrêté pour interdire la marche lancée par ce collectif, tout comme à la mi-mars, une première marche a déjà été interdite. Le collectif a donc décidé de maintenir la marche jeudi sur toute l'étendue du territoire. Depuis fin janvier, la raffinerie de Jarmaya, seule source d'approvisionnement en gaz du pays, tourne au ralenti. Le gouvernement avait autorisé l'importation de gaz du Nigeria ou du Cameroun, mais selon une source au ministère tchadien de l'économie, il s'agit d'un bras de fer entre le gouvernement et la société chinoise actionnaire de la raffinerie pour la renégociation de contrats qui est en cause. Conséquence, les besoins en énergie de la population ne sont toujours pas satisfaits.
Au Sénégal, le procès d'un chef religieux musulman, Cheikh Bétiou Thioune, et de 21 de ses disciples pour le meurtre de deux autres fidèles en 2012 a débuté hier à Mbour, à 80 km au sud-est de Dakar, la capitale. Le marabout, qui est à l'étranger pour raisons médicales, est donc jugé par contumace. Son procès est attendu depuis des années en raison de l'importance du principal prévenu. Cheikh Bétiou Thioune, un responsable mouride, une des plus influentes confréries de l'islam au Sénégal, un pays à plus de 90% musulmans, compte de nombreux fidèles, y compris à l'étranger.
Le Malawi a lancé hier le premier test grandeur nature d'un vaccin expérimental contre le paludisme. Cette maladie fait chaque année des centaines de milliers de morts en Afrique. Le point avec Morgane Guériec.
Après 30 ans de recherche et un investissement $1 milliard, cette campagne vise à confirmer l'efficacité de ce vaccin expérimental sur des enfants de moins de 2 ans. Elle a débuté hier au Malawi et doit se poursuivre la semaine prochaine au Ghana et au Kenya. L'Organisation mondiale de la santé espère immuniser 360 000 enfants dans chacun de ces trois pays d'ici à 2020. Baptisé Mosquirix ou RTSS, ce vaccin expérimental a été développé par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline et financé par l'Alliance du vaccin, le Fonds mondial de la lutte contre le sida et le paludisme, ainsi que l'UNICEF. Les essais préliminaires menés de 2009 à 2015 ont permis de réduire de 39% les épisodes paludiques chez les enfants de 17 mois à 5 ans. Son efficacité est donc relative, mais les chercheurs espèrent qu'avec les moyens de prévention comme les moustiquaires imprégnés, il permettra de réduire le nombre de victimes. L'Afrique est de loin le continent le plus touché par le paludisme, qui a fait 435 000 morts dans le monde en 2017.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le bilan des attaques suicides contre des églises et des hôtels de luxe au Sri Lanka à Pâques s'est encore alourdi, passant à 359 morts, a annoncé la police mercredi. Un précédent bilan faisait état de plus de 320 morts, mais plusieurs personnes ont succombé à leurs blessures. Au moins 500 personnes ont été blessées au cours de ces attentats, qui comptent parmi les plus meurtriers depuis le 11 septembre 2001. Les autorités locales ont attribué le bain de sang au mouvement islamiste local, le NTJ, qui ne l'a pas revendiqué et il cherche à savoir s'il a bénéficié d'un soutien logistique international. Le Sri Lanka a arrêté 40 personnes, mais des suspects sont encore en fuite, d'après le Premier ministre sri-lankais. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué hier ces attaques.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un arrive ce matin à bord de son train à Vladivostok en Russie, où il doit rencontrer demain le président Vladimir Poutine pour leur premier sommet. Kim Jong-un cherche, dit-on, à obtenir l'appui de Moscou dans son bras de fer avec Washington sur le nucléaire. Il s'agit pour M. Kim de sa première rencontre avec un chef d'État étranger depuis son second sommet avec le président américain Donald Trump, sommet qui s'est soldé en février à Hanoï par un échec.
La Maison-Blanche a de nouveau raté mardi la date butoir fixée par les démocrates pour obtenir les déclarations d'impôts du président républicain Donald Trump, laissant augurer d'une âpre bataille judiciaire. Le Trésor américain a repoussé au 6 mai sa décision finale sur cette demande sans précédent. Le temps de consulter le ministère de la Justice, a expliqué le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, dans une lettre. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le secrétaire au Trésor qui a sollicité un report ne perçoit dans l'action des démocrates du Congrès qu'une volonté de publier les déclarations d'impôts du président. C'est la deuxième fois que l'administration Trump repousse le délai fixé par les démocrates de la Chambre des représentants pour cette demande présentée le 3 avril par la commission chargée des questions de fiscalité. Monsieur Trump est le premier président américain depuis Richard Nixon à refuser de divulguer sa situation fiscale. Fort de leur nouvelle majorité à la Chambre des représentants, les démocrates sont dotés de l'autorité de réclamer ces documents. Jamais une telle demande présentée par cette même commission n'a été rejetée par le passé, ont-ils souligné. Les démocrates vont désormais consulter leurs avocats, selon des médias américains, réclamant les 6 dernières déclarations de revenus annuels du président. Ils avaient d'abord fixé un ultimatum au 10 puis au 23 avril. M. Trump s'est depuis le départ montré réticent à livrer ses déclarations, affirmant qu'il faisait déjà l'objet d'un contrôle fiscal. Le président a été assez clair. Une fois que le contrôle sera achevé, il y songera, a déclaré un porte-parole de la Maison-Blanche mardi sur une chaîne de télé américaine. Il n'est pas disposé à le faire pour l'instant.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Ouganda a réceptionné hier du Canada deux bi-réacteurs régionaux bombardiers CRJ-900 d'une capacité de 90 places chacun pour relancer sa compagnie nationale liquidée en 2001. Le processus de certification de la société n'étant pas achevé, les vols ne débuteront pas avant juillet avec des vols domestiques et régionaux avant d'assurer des liaisons à l'international. L'Ouganda doit aussi réceptionner deux avions long courrier de l'avionneur européen Airbus en 2020-2021. Pour finir, la Société guinéenne du patrimoine minier est passée sous la tutelle de la présidence de la République et n'est plus sous le contrôle du ministère des Mines et de la Géologie. D'après la Tribune Afrique, cette décision s'explique par le défi de faire profiter aux populations les retombées de l'exploitation minière et répondre à la question environnementale qui se pose. La Sogipam, dont l'État détient 49% du capital, est une société stratégique pour la Guinée puisqu'elle est sa première ressource de devises, d'autant plus que le secteur des mines est actuellement en plein essor.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Étoile du Sahel complète le tableau des demi-finales en Coupe CAF.
Oui, victoire des Tunisiens, 2-1 hier à Suez en Égypte. C'était le dernier match des demi-finales retour, initialement programmé le 7 avril dernier à Omdurman. Cette rencontre avait été reportée pour des raisons de sécurité au Soudan. À l'aller, les Tunisiens l'avaient emporté 3-1. L'Étoile du Sahel rejoint ici le Zamalek en demi-finale. L'autre match du dernier carré de cette Coupe CAF opposera les Marocains de Berkane aux autres Tunisiens du CS Sfaxien.
Cannes des moins de 17 ans, la CAF rejette la réclamation du Sénégal contre la Guinée.
Oui, après sa défaite face au Sili National Cadet sur le rectangle vert le 18 avril passé, le Sénégal avait émis une réclamation contre la Guinée, l'accusant d'avoir aligné deux joueurs qui ont plus de 17 ans lors de cette rencontre. La CAF a classé cette demande sans suite, un rejet qui signifie donc que la Guinée peut tranquillement jouer sa demi-finale contre le Nigeria. Ce soir, l'autre demi opposera le Cameroun à l'Angola.
82 candidats pour le poste de sélectionneur du Gabon.
14 Africains, dont 4 Gabonais, 62 Européens, 5 Sud-Américains et 1 Américain sont en lice pour prendre en charge les Panthères. Pour le poste de directeur technique national, 19 candidatures, 10 Africains, dont 8 Gabonais et 9 Européens ont été reçus. L'appel à candidature a expiré lundi. Le Gabon espère annoncer le nom du nouveau sélectionneur qui remplacera Daniel Cousin d'ici la fin du mois de mai.
Old Trafford, pas effrayant pour Pep Guardiola.
Oui, le stade de Manchester United n'est pas effrayant, a estimé l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. Le derby mancunien de ce soir compte pour la 31e journée de Premier League. Les Citizens ont remporté 5 de leurs 7 dernières visites en Premier League chez leurs voisins. À titre personnel, Guardiola y a remporté ses deux premiers derbys de championnat. Le technicien espagnol s'attend toutefois à une réaction de Manchester United aujourd'hui après l'humiliation subie à Everton dimanche 4-0. Le derby de ce soir est crucial pour les deux équipes. City a besoin de 3 points pour doubler Liverpool dans sa course pour le titre. De son côté, United doit se relancer dans sa course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Du basket, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA, je rappelle qu'il s'agit du premier tour des playoffs.
Les Philadelphia Sixers affronteront les Toronto Raptors en demi-finale de la conférence Est, les deux équipes ayant remporté leur série de playoffs mardi, respectivement face aux Brooklyn Nets et aux Orlando Magic. Les deux équipes qualifiées ont gagné leur quatrième match contre une défaite. Les Sixers, menés encore une fois par le Camerounais Joel Embiid, ont défait les Nets 122-120, un score serré qui ne reflète guère leur mainmise sur la partie contrôlée d'un bout à l'autre. Peu avant, les Raptors avaient surclassé les Magic 115-96. Kawhi Leonard s'est encore montré déterminant pour Toronto en marquant 27 points, plus 7 rebonds et 2 passes décisives. Pascal Siakam, un autre Camerounais, s'est aussi illustré avec 24 points, 6 rebonds et 4 passes. En conférence Ouest, Denver, en battant San Antonio 108-90, mène la série 3-2.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, les avocats suspendent pour 96 heures toute participation aux audiences judiciaires sur l'ensemble du territoire national. Ils entendent protester ainsi contre ce qu'ils qualifient de dysfonctionnement sérieux de l'appareil judiciaire. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Une semaine sans participation à une audience judiciaire sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'une des décisions prises par l'Ordre des avocats pour tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de ce qu'ils considèrent comme un grave dysfonctionnement de la justice au Burkina. Maître Paulin Salambéré est le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina.
Voyez-vous, depuis le mois d'octobre, nous avons constaté un dysfonctionnement, notamment ce qui concerne les activités en matière correctionnelle. Les personnes qui sont en détention ne sont plus jugées depuis le mois d'octobre. Celles qui sont en détention et dont les dossiers sont en instruction ne peuvent être entendues. Les personnes placées en détention le temps de recevoir jugement également pour des délits mineurs sont toujours détenues 6 mois, 7 mois sans pouvoir être entendues. Nous estimons que tout cela constitue une atteinte grave des libertés parce que le principe c'est la liberté et l'exception la détention. Et à ce jour, nous avons des frères, des sœurs, des mères, des pères qui sont en détention, isolés. Nous pensons même qu'ils sont séquestrés parce qu'ils n'ont droit à aucune visite.
Ces dysfonctionnements sont la conséquence de la grève menée par les gardes de sécurité pénitentiaire. Une grève qui paralyse le système judiciaire, empêchant notamment de transférer les détenus après les gardes à vue. Elle empêche aussi les inculpés d'être jugés. Également depuis, les familles ne peuvent plus rendre visite à leurs proches en prison. Une situation qui commence à lasser les Burkinabés.
Ce pays-là, il y a trop de grèves. Et je pense, les auxiliaires de la justice, ils doivent mettre l'eau dans leurs veines. S'asseoir, discuter, écouter. Et comme eux, ils sont habilités à écouter et trancher, c'est pourquoi j'invite les avocats à s'écouter d'abord, à regagner leur bureau et commencer à travailler.
Bon, je ne pense pas que ça avance le pays. Tu veux une chance pour mettre, aller quelque part, on dit il y a grève. Tu veux aller aux impôts ou bien dans la caisse, on dit il y a grève. Chacun lutte pour ses intérêts, mais il y en a trop des intérêts maintenant. Essayer de s'asseoir et puis s'entendre un peu. C'est ça là la solution.
Ce mouvement des avocats, selon le bâtonnier Paulin Salambéré, est mené dans l'intérêt des justiciables.
Que les gens se rassurent, ce n'est pas relativement au manque à gagner d'honoraires d'avocats, parce que le côté pénal ne constitue pas la source première des revenus des avocats. Il y a les aspects qui relèvent du commercial, du civil. Et si nous avons accepté de surseoir à ces audiences, nous ne le faisons pas pour les avocats. Nous le faisons pour le justiciable.
Cette suspension de travail des avocats va s'achever lundi avec une marche et la remise d'un mémorandum aux autorités sur la situation. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Nigeria, une affaire qui défraie la chronique ces jours-ci, la condamnation à 12 ans de prison d'un activiste bien connu dans la lutte contre la corruption, celle d'Ibrahim Walla, alias Aïdji Walla, inspecteur général Walla, qui a été reconnu coupable de diffamation la semaine dernière par la Haute Cour d'Abuja. Les précisions de notre correspondant sur place, Gilbert Tamba.
Pour lutter contre la corruption au Nigeria, le gouvernement fédéral avait demandé en 2017 à tout Nigérian ayant des preuves de dénoncer des cas de corruption dans leurs ministères et organisations. Un appel jusqu'ici très peu suivi par des Nigérians de peur d'être objet de poursuites judiciaires ou de représailles de la part des personnes mises en cause. Ibrahim Walla semble être la première victime. Le 26 septembre 2017, Walla, qui dirige l'Observatoire de l'Initiative de l'Action Citoyenne, avait publié sur sa page Facebook un message accusant Abdullahi Mukhtar, le président de la commission en charge des questions du Hajj, le pèlerinage musulman, d'avoir détourné plus de 8 millions de dollars américains destinés à financer le voyage des musulmans à la Mecque pour le Hajj de 2017. Meurtri par ses propos, l'accusé décide de traduire l'activiste devant la Haute Cour fédérale d'Abuja, où son procès s'est déroulé pendant plusieurs mois avant sa condamnation à 12 mois de prison ferme. Kolawole Banwo du Sislac, une ONG locale, déplore l'absence d'une loi pour protéger ceux qui possèdent des informations sur les cas de corruption au Nigeria.
Nous avons toujours réclamé l'adoption d'une loi protégeant ceux qui dénoncent la corruption au Nigeria. Pas simplement une politique, parce qu'on peut abuser facilement d'une politique. Si vous avez une loi, cela protège les gens. Mais nous n'avons pas de loi. Donc ceux qui tentent de dénoncer les cas de corruption restent toujours vulnérables.
Pour le président et fondateur du groupe Follow the Money, suivre la trace de l'argent qui combat la corruption au Nigeria, cela doit servir de leçon aux autres activistes qui devront disposer de suffisamment d'informations et de preuves avant de dénoncer un cas de corruption. Hamza Laval.
Pour nous les activistes, cela doit nous servir aussi de leçon. Avant de dénoncer quelqu'un, il faut d'abord disposer d'informations concrètes avec des preuves vérifiables. Cela vous évite, en faisant votre travail, d'accuser les gens innocents.
L'affaire suscite aussi beaucoup de réactions au sein de la population et beaucoup affirment que l'emprisonnement de l'activiste Walla pourrait décourager d'autres Nigériens à dénoncer la corruption au sein de l'administration publique. C'est le cas de Lucy James.
Ce n'est pas du tout bien pour la bonne gouvernance que nous voulons promouvoir. Le monde nous regarde, cela est une réalité. L'Afrique tout entière a aussi son regard sur le Nigeria. Vous voyez, si quelqu'un dénonce un cas de corruption et qu'il est emprisonné pour 12 ans, cela veut dire que tout le monde doit rester sans rien dire.
La lutte contre la corruption reste le principal défi à relever pour le gouvernement nigérian. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En Libye, les combats continuent près de 3 semaines après le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli. Cette crise a été discutée hier au Caire sous la houlette de l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi, président en exercice de l'Union africaine. Et au Conseil de sécurité de l'ONU, les grandes puissances sont très divisées sur le sujet. Pour une explication, Idriss Fall a joint Riyad Sidaoui, directeur du Centre de recherche sur le monde arabe à Genève.
Tout d'abord parce que l'État libyen n'existe pas. Alors en Libye, on sait bien qu'il y a des micro-États ou des micro-pouvoirs partout. Même Tripoli est partagé par plusieurs milices. Le maréchal Khalifa Haftar a une armée nationale plus structurée, plus organisée et plus disciplinée que les milices de Fajr Libye à Tripoli. Je pense qu'il y a certains États qui ont compris que la solution politique n'est pas pour le jour. Ça veut dire qu'il y a eu des négociations Sriat au Maroc, des négociations à Genève 1, 2 en Égypte, en Tunisie, mais en vain toujours, il y a eu l'échec des politiques. Donc maintenant, on parle de la solution militaire.
C'est ça qui explique que Donald Trump a appelé le maréchal Haftar et que le GNA accuse Paris de soutenir aussi le maréchal Haftar.
Oui, Paris a manifesté son soutien direct ou indirect vis-à-vis de l'armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar. Donald Trump aussi, dans un tweet, il a dit que Haftar a lutté contre le terrorisme, ce qui veut dire pour les Américains, ceux qui luttent contre le terrorisme international sont des alliés objectivement, mais par exemple, les contre Haftar, l'Italie a des bons rapports avec les islamistes de Misrata, la Grande-Bretagne a des bons rapports avec Fajr Libye à Tripoli. Au plan régional, on voit que l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite soutiennent Khalifa Haftar. Or, c'est le contraire, la Turquie et le Qatar soutiennent les milices de Tripoli, Fajr Libye, qui sont composées en plupart des frères musulmans ou même des islamistes d'Al-Qaïda comme Abdelhakim Belhaj.
Le Tchadien Idriss Déby Itno aussi a affiché son soutien à Khalifa Haftar.
Oui, évidemment, la Libye a plusieurs voisins, que ce soit l'Égypte ou l'Algérie ou la Tunisie ou le Tchad ou le Niger. Ces États aussi ont le droit d'un regard à ce qui se passe en Libye parce que ça fait partie de leur sécurité nationale. Et n'oublions pas aussi la Libye devenue un bastion des mouvements des terroristes, que ce soit de Daesh ou d'Al-Qaïda. Certes, Daesh a été éliminé à Sirte, mais pour retrouver d'autres poches en Libye.
Mais est-ce que Khalifa Haftar peut gagner la guerre? Parce que son offensive, il l'avait lancée depuis le 4 avril et il n'arrive pas à prendre Tripoli.
La guerre des villes, ce n'est pas facile. La bataille des grandes villes, surtout une grande ville comme Tripoli, ce n'est pas donné. Haftar ne va pas gagner cette guerre dans 24 heures, même si elle la gagne. Après aussi, il y aura des résistances de ces poches islamistes. Surtout, nous savons bien que les islamistes sont déterminés, bien armés aussi, et ils ont un soutien à l'extérieur. Donc, la bataille n'est pas facile. Mais apparemment, la conjoncture internationale est en faveur de Maréchal Khalifa Haftar. Mais la solution finale en Libye doit être une solution politique, malgré les victoires militaires. Mais à mon avis aussi, il faut une victoire militaire qui aboutit à une réconciliation nationale et à une solution politique.
Riyad Sidaoui, directeur du Centre de recherche sur le monde arabe, joint à Genève.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président américain Donald Trump a ouvert un nouveau flanc dans sa bataille contre l'immigration clandestine en ordonnant à son administration de sévir contre les dépassements de visa des étrangers qui entrent légalement dans le pays mais restent aux États-Unis après l'expiration de leur visa. Monsieur Trump a signé un mémorandum enjoignant au secrétaire d'État et au secrétaire à la sécurité intérieure de soumettre des plans dans un délai de 4 mois pour réprimer ces dépassements. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint dans le Maryland maître Joseph Fa, un spécialiste du droit de l'immigration.
Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est à 16 mois des élections. Il est en train de recommencer avec une autre politique d'immigration pour essayer de susciter de l'émotion à ses électeurs. Parce que la promesse qu'il a faite du côté du Mexique ne fonctionne pas. Il faut trouver une autre politique. Donc, ce n'est qu'une simple promesse électorale. Et je ne pense pas que ce sera une politique qui va vraiment survivre, même sur le plan légal.
Si cela, cependant, pouvait être possible, il envisagerait notamment dans ce texte de punir les pays dont les citoyens ont des taux de dépassement élevés. Comment analyser ce point particulier?
Je m'intéresse bien à savoir comment est-ce que cela sera fait. Peut-être à l'imposition des sanctions, comme les Américains savent bien faire. Mais vous octroyez des visas aux citoyens qui vous le demandent de façon légale et qui viennent dans le pays et qui, pour une raison ou pour une autre, décident de ne pas rentrer. Et la plupart de ceux qui décident de ne pas rentrer trouvent le moyen de s'installer ici de façon très légale. Ils vont certainement demander l'asile. On a dit qu'il y a environ plus de 10% de OVST pour les pays comme le Djibouti, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad. Mais ce sont des pays qui sont en voie de développement, parfois menacés par des guerres. Parfois, ils viennent ici pour demander de l'asile. Quoique, au départ, ils ont demandé un visa touriste ou alors un visa d'affaires. Et ils arrivent ici, les conditions dans leur pays sont telles qu'ils ne peuvent plus retourner là-bas. Donc, je ne vois pas très bien en quoi est-ce que la souveraineté d'un pays comme le Tchad ou bien la souveraineté d'un pays comme le Bénin serait souffrir des conséquences du fait qu'un citoyen béninois est venu ici et a décidé de ne pas retourner dans son pays. Ce que le président peut faire, c'est si quelqu'un n'a pas une demande légitime d'installation ou bien d'immigration ou bien d'insertion ici aux États-Unis, la demande, lorsqu'elle n'est pas accordée, vous pouvez donc simplement lui demander, ok, vous avez le droit de rentrer chez vous. Si le gouvernement n'est pas content du fait que les citoyens d'un pays, le Tchad, Djibouti, s'installent ici à perpétuelle demeure, vous pouvez, si vous ne leur accordez pas les papiers, naturellement commencer des mesures de rapatriement. Je me demande bien comment sera cela mis en œuvre sans que cela entrave la relation commerciale et même diplomatique entre les deux pays.
Il a demandé donc au secrétaire de la Sécurité intérieure de soumettre des plans et comme notamment obliger les voyageurs étrangers à déposer des bons d'admission qui seraient remboursés une fois qu'ils quitteraient le pays. Au niveau légal, est-ce que cela a une valeur quelconque? Est-ce que ce serait acceptable ou pas?
Je ne pense pas qu'il y ait une disposition légale qui l'empêche de déposer les bons parce que vous savez, même ceux qui viennent ici de façon illégale, qui traversent la frontière du côté du Mexique et qui sont arrêtés, détenus, parfois pour sortir des zones de détention, ils déposent des bons qui garantissent leur retour pour subir devant la justice. Lorsque vous partez en justice et vous gagnez votre procès, vous avez une autre procédure pour rentrer en possession de votre bon. Et en ce moment-là, on vous paye avec des intérêts. Je ne sais pas jusqu'où cela sera légal. Encore faut-il que les gens soient en mesure de payer le bon.
C'était l'avocat Joseph Fa, joint dans le Maryland.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOAAfrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nashwan Kale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.